Un drame à Limoges. À seulement 15 ans, Inès est morte poignardée le week-end dernier. Son corps a été découvert dans un sous-bois à Hill, en Haute-Vienne, dans la nuit de samedi à dimanche, le lendemain de sa disparition. Inès est morte à cause du vol de son téléphone portable. C'est en tout cas la version donnée par son meurtrier présumé en garde à vue. Un garçon, un adolescent de 15 ans, du même âge que la victime. Il a été interpellé et mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Ce jeune était jusqu'alors inconnu des services de police et de justice. Comment expliquer un tel passage à l'acte? Comment devient-on meurtrier à seulement 15 ans? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Florine Sylvan.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour BFM Radio. Revenons donc sur cette affaire qui débute par un signalement.
Ce signalement, c'est celui d'une mère inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Cette jeune fille s'appelle donc Inès. C'est une adolescente aux cheveux bruns. Elle habite à Hill, une petite commune située en Haute-Vienne. Vendredi dernier, donc le 13 décembre, l'adolescente se prépare à sortir. Il est alors environ 18h. Elle dit à sa mère qu'elle doit récupérer des documents pour son stage. Elle a rendez-vous à 18h30. Pas très loin de chez elle. Une heure passe, puis deux. À 20h30, sa mère va au commissariat de police de Limoges car Inès a disparu et ce n'est pas dans ses habitudes. La sœur de l'adolescente est aussi au commissariat. Elle donne une première information aux policiers. Inès parlait avec quelqu'un sur le réseau social Snapchat avant de partir de chez elle. Et elle n'a pas donné de signe de vie depuis son rendez-vous.
La personne qui se cache derrière le profil Snapchat est rapidement identifiée.
Alors au début, on sait que c'est un adolescent et qu'Inès échange depuis plusieurs jours avec lui. Mais la famille de la jeune fille ne le connaît pas, donc ils font leurs propres recherches. Et finalement, ce jeune homme est identifié le samedi dans l'après-midi, soit le lendemain de la disparition d'Inès. Il a 15 ans et il est inconnu des services de police et de justice.
Les enquêteurs l'entendent d'abord en tant que témoin, mais il est très vite placé en garde à vue.
D'abord, les enquêteurs l'interrogent sur sa relation avec Inès, sur la nature de leurs échanges. Ils lui demandent s'il a des informations sur sa disparition. L'adolescent dit que non, et il nie toute implication dans cette affaire. Mais ses réponses ne convainquent pas les enquêteurs. Il le place alors en garde à vue. L'enquête ouverte pour recherche d'une personne disparue se poursuit, mais pour meurtre maintenant.
Que va-t-il dire aux enquêteurs ?
Eh bien, il avoue. Il dit qu'il est impliqué dans la mort d'Inès, puis il se livre. Il a parlé plusieurs fois à Inès en prenant le bus avec elle. Il confirme aussi des échanges sur les réseaux sociaux la semaine avant le drame.
Question évidemment importante, est-ce qu'il a prémédité son geste ?
Alors, il explique que le vendredi, il donne rendez-vous à Inès dans l'intention de lui voler son téléphone. Le point de rencontre, c'est un arrêt de bus. Pour qu'elle vienne, il lui dit qu'il a un cadeau à lui donner de la part d'une amie. Inès arrive à l'heure au rendez-vous. Lui, il l'attend avec une boîte à bijoux, le fameux cadeau qu'il dit devoir lui donner. Puis, selon sa version, il l'emmène vers un bois à proximité. Une fois à l'abri des regards, il tente de lui voler son téléphone, mais d'après lui, Inès se débat. Il sort alors un couteau et lui assène plusieurs coups. Inès meurt sur place.
Après son passage aux aveux, il va également indiquer aux enquêteurs où se trouve le corps d'Inès.
Après les faits, l'adolescent prend la fuite en courant. En route, il se débarrasse du portable d'Inès dans la cave d'un bâtiment. Puis, il arrive chez lui à 19h30, soit une heure après son rendez-vous avec l'adolescente. En garde à vue, il indique où se trouve le corps d'Inès. Les enquêteurs retrouvent alors ce corps abandonné dans un sous-bois dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. En conférence de presse, la procureure de la République de Limoges précise qu'Inès n'était pas dévêtue. Sur son corps, il y a une quarantaine de plaies, parfois profondes, au niveau du cou, sous le sein gauche et dans le dos. Certaines prouvent qu'Inès a tenté de se défendre. Les enquêteurs retrouvent aussi la boîte à bijoux et un couteau de cuisine caché derrière un rocher à proximité du corps d'Inès. C'est l'arme du crime, selon l'adolescent.
L'adolescent est donc de nouveau entendu. Est-ce qu'il confirme qu'Inès a tenté de se débattre ?
C'est ce qu'il dit, oui. Inès s'est débattue. En fait, quand ils sont dans le sous-bois, elle contacte sa sœur par téléphone pour appeler à l'aide. Et c'est à ce moment-là que, selon lui, qu'il prend le couteau de cuisine et qu'il lui porte plusieurs coups. Il explique en fait avoir eu peur que les cris d'Inès alertent le voisinage. Depuis, une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort.
Bonjour Thierry Delcourt, vous êtes psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie et expert auprès des tribunaux. Vous avez écrit l'ouvrage « Je suis ado et j'appelle mon psy » paru en 2016 aux éditions Max Milo. Dans l'affaire que nous venons d'évoquer, un adolescent de 15 ans a avoué avoir tué Inès, une jeune fille âgée du même âge. Mais alors comment expliquer un tel crime à seulement 15 ans ?
Bonjour. Alors, l'expliquer, je pense qu'on ne peut pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête de cet adolescent. Ça peut être très compliqué dans la tête d'un adolescent. Mais en tout cas, on peut avoir quelques hypothèses en fonction de ce qu'on connaît actuellement des crimes d'adolescents. Hein, avec, y a deux grands axes qui amènent à ces crimes. Le premier, c'est celui d'un adolescent qui est en retrait ou qui a été victime de harcèlement ou d'autres choses comme ça et qui contient et qui accumule une telle douleur et en même temps une telle besoin de vengeance qu'il va à un moment donné passer à l'acte de façon tout à fait imprévisible et pas forcément sur la cible qui le concerne. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu avec les crimes américains où ils arrivent dans une classe et où ils tuent comme ça. Donc ça, c'est un aspect. Par rapport à l'affaire dont vous me parlez, je pense que c'est pas de ça dont il s'agit. Par contre, on a un élément important, puisque l'adolescence est par définition une période fragile. Hein, on a un élément actuel qui est ce qu'on appelle l'intolérance à la frustration. Hein, et une forme de toute-puissance sans retenue. Ça, c'est quelque chose de très important dans ce qu'on voit. Vous savez, au début de ma pratique, il y a maintenant 40 ans, je voyais des adolescents qui arrivaient plutôt inhibés, bloqués, qui n'osaient pas se montrer. Voilà, ça existe toujours, ce genre de choses. Mais maintenant, on est passé, et du fait d'une évolution éducative, du fait aussi de la présence très forte des écrans, et du fait aussi que ces écrans et les médias sont plus prescripteurs que finalement que la famille, qui est souvent dans une situation un peu précaire ou un peu désunie, si vous voulez, l'enfant va franchir des étapes en restant dans l'illusion qu'il n'y aura pas de barrage. Tous ceux qu'on peut vivre, c'est-à-dire les limites qui sont posées pour chacun de nous, et ses limites, c'est tu ne tueras point, enfin, etc. Enfin, tous ces éléments qui ne sont pas du tout du registre religieux, qui sont simplement du registre citoyen, c'est-à-dire comment on respecte les choses. Et donc, le problème majeur qu'on a en ce moment, c'est justement le cumul entre cette intolérance à la frustration. On le voit, par exemple, quand des parents interdisent ou coupent le Wi-Fi, par exemple, et des enfants sont capables de taper sur leurs parents et de leur faire très mal simplement parce que les parents ont coupé le Wi-Fi. Hein. Cette intolérance à la frustration. Et puis cette illusion de toute puissance, c'est-à-dire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème qui est accentué par le fait que d'une part, il y a une consommation excessive d'écran, et puis, je ne sais pas ce qu'il en est pour cet adolescent, mais aussi une consommation de drogue soi-disant douce pour certaines, mais aucune drogue n'est douce en ce moment, hein, y compris le cannabis. Le cannabis est à dose forte et il est mélangé. Donc l'association avec des drogues qui finalement lèvent les filtres que nous pouvons chacun avoir en disant « voilà, je ne vais pas passer à l'acte ». Donc le passage à l'acte se fait avec ce cumul de tous ces éléments-là.
Les meurtres commis par des adolescents, si on parle en dehors des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, est-ce qu'ils sont fréquents ? Et à ce moment-là, quels sont les profils des adolescents ? Là, vous nous en avez un peu parlé, vous avez dit qu'ils avaient évolué. Mais du coup, est-ce que, je ne sais pas, il y en a de plus en plus ?
Alors, oui, et ils ne sont pas forcément médiatisés. Je prends un exemple, tout récemment, un adolescent quand même, qui était dans une situation douloureuse dans sa vie scolaire, mais aussi dans sa vie familiale, est venu avec un couteau dans son établissement et a planté le couteau. L'autre n'est pas mort, mais il a planté le couteau quand même. Vous voyez, le passage à l'acte se fait comme ça, de façon très abrupte. Dans cette situation, il y avait quand même une accumulation de souffrances. Mais récemment, on a encore eu dans une école privée à Reims, par exemple, où j'exerce, hein, je vous parle de ce que je connais de près pour les avoir étudiés de près aussi. Dans un mouvement comme ça, de groupe, parce que le groupe est aussi important. Dans cette situation, il n'y a pas de question de groupe, mais souvent, il y a cette question du groupe. y compris avec ceux qui filment les choses. Donc, il y a eu un meurtre, hein, un assassinat, on peut le dire, puisque c'était orchestré et d'un adolescent par un autre adolescent, simplement parce que celui-ci était un peu trop populaire à l'image de l'autre qui voulait montrer ses biceps, si on peut dire. Hein. Voilà, donc des choses comme ça. On peut dire les éléments que vous décrivez, ils sont heureusement médiatisés parce qu'effectivement, c'est d'une part spectaculaire et extrêmement grave, mais dans toutes les villes petites, et dans le rural aussi, parce que voilà, faut penser au rural, il y a des passages à l'acte comme ça qui sont importants. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé avant, hein. Voilà, les meurtres qui étaient du vendredi soir ou du samedi soir au bal ou ailleurs, ça existait aussi, hein, soit en individuel, hein, t'as touché à ma copine, je te tue. Hein, ça, c'est des choses qui ont toujours existé sur le plan humain, et pas seulement d'ailleurs chez les adolescents, chez les adultes aussi, malheureusement. Par contre, le passage à l'acte est beaucoup plus immédiat en ce moment.
Et là, dans les cas dont on parle et qu'on décrit, comme le cas d'Inès, la victime, c'était une adolescente du même âge que le suspect, donc de 15 ans. Là, les cas dont vous parlez, c'est aussi des adolescents entre eux. Mais par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que des adolescents s'en prennent à des adultes également ?
Alors oui, des adolescents, et précisons même des adolescentes, parce que les trois dernières situations, d'ailleurs j'en parle dans un livre qui s'appelle « Je suis ado et j'appelle mon psy », de trois adolescentes qui ont réglé leur compte à un adulte à la sortie, parce qu'il était à la sortie de l'immeuble, elles chahutaient, il a fait une remarque, elles l'ont tué. Vous voyez ? C'est des choses comme ça existent aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est adulte que on voilà. À titre d'exemple, je vous donne un exemple personnel. Je suis derrière un scooter à un feu rouge. Il démarre pas parce qu'il est sur son téléphone. Je klaxonne un peu. Ils sortent et ils me cassent la figure. Vous voyez, des choses comme ça, ça existe. Alors ça existe parmi les adultes. Mais des passages à l'acte aussi qui se font du côté des adolescents.
Et dans quelle mesure est-ce que la violence chez les adolescents, pour la comprendre, il faut aller regarder du côté des facteurs sociaux et familiaux ?
Alors oui, les facteurs sociaux et familiaux. La famille, vous savez, c'est plus... Alors, on ne va pas être nostalgique de la famille du milieu du XXe siècle avec le patriarcat, etc. Mais en tout cas, il y avait une structure familiale qui permettait de poser des interdits et de les faire respecter. Il y a plusieurs phénomènes qui entrent en jeu. La première chose, c'est effectivement tout ce qui se passe dans les désunions familiales, tout ce qui se passe aussi dans les ruptures familiales. Et puis, il y a aussi le fait que la famille, comme on dit, est tutélisée, c'est-à-dire que il va y avoir une prescription de l'État, hein, et ça, on peut ne pas le regretter, heureusement, parce que l'interdit des maltraitances, etc. Mais il y a aussi une prescription des médias et maintenant surtout des réseaux sociaux, c'est-à-dire que qui fait autorité dans une famille, ce ne sont plus les parents, ce sont les médias et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qui est dit à l'extérieur a beaucoup plus de poids que ce qui est dit par les parents. Bien sûr, je ne généralise pas. Hein. Il y a des familles où les choses, où la structure et la construction psychique et la construction de l'identité de l'enfant, parce que c'est ça qui est important. Sentir qu'on a une identité solide, c'est aussi une garantie pour ne pas passer à l'acte dans des situations comme ça. Et donc, vous le savez, en ce moment, il y a quand même des réseaux sociaux qui diffusent des choses aberrantes et qui amènent soit à des actions, à des passages à l'acte contre les autres, soit même, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est aussi, on pourrait dire, autocriminel, des passages à l'acte contre soi, hein, tout et des choses graves, de tentatives de suicide, etc., etc., vous voyez.
Et alors, comment est-ce que ces adolescents criminels sont-ils pris en charge après leur passage à l'acte ?
Alors ça, vous connaissez l'état de la psychiatrie en France et l'état de la pédopsychiatrie en France. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire. Nous sommes en France en ce moment entre 630 et 700 pédopsychiatres pour l'ensemble de la France. Vous voyez ce que ça représente. Moi, j'ai à peu près 10 demandes de rendez-vous par jour, de nouveaux rendez-vous par jour. Je ne peux pas répondre à ça, tout comme mes collègues ne peuvent pas répondre à ça, et il y a une carence énorme. Et quand un adolescent est en souffrance et qu'on lui dit ben, « je n'ai pas de rendez-vous avant 6 mois », vous voyez bien qu'il peut se passer beaucoup de choses en 6 mois, et notamment ces passages à l'acte-là, hein, c'est-à-dire une souffrance, un passage à l'acte. Donc il y a déjà ce problème-là, c'est-à-dire une absence de prévention par le fait qu'on accompagne de façon cohérente nos adolescents. Et ça devrait être un devoir, c'est un devoir de santé publique, mais ça ne se fait pas parce qu'effectivement, les choses sont comme ça. On a fermé les écoutilles, on a fermé les vannes pour la formation des médecins et des psychiatres. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu terrible à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise aussi de la part de la justice, hein, qui fait que sur des petits passages à l'acte, on va banaliser, hein, et que finalement, on a simplement un avertissement, ou bien que les choses arrivent. Vous voyez, quelqu'un qui commet un acte grave, mais pas un crime, mais un acte grave à 14 ans, il va passer devant le juge des enfants 2 ans après, et puis il sait que avant 18 ans, il ne se passera pratiquement rien pour lui, hein, si ce n'est des mesures qui, en général, ne sont pas appliquées parce qu'il y a un manque de personnel, il y a un manque de moyens pour les faire appliquer. Donc, vous voyez, il y a une vraie carence à ce niveau-là qui rend les choses très compliquées pour les suivis des criminels. Après, effectivement, il y a toute la procédure judiciaire quand on est dans des situations graves comme celle-ci, c'est-à-dire l'incarcération et ensuite le suivi qu'on appelle socio-judiciaire et psycho-judiciaire avec une obligation de soins. Mais vous vous doutez bien par rapport à ce que je vous ai dit que si on pose une obligation de soins et qu'en même temps on n'a pas de moyens pour l'effectuer, on est dans une espèce de vide sidéral par rapport à l'accompagnement de ces enfants-là.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Thierry Delcourt.
Merci, et puis bon courage à vous, au revoir.
Et merci Ronald de Guintrange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit.